Merci de m'avoir invitée. Et donc, je suis très honorée, puisque j'étais son étudiante, de présenter là quelques aspects du travail de Françoise Héritier, qui est sans doute l'anthropologue la plus originale et en même temps la plus classique, les deux, de sa génération. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'originalité très précise, d'audace intellectuelle, et en même temps, elle s'inscrit tout à fait dans l'histoire, je dirais, classique au sens noble du terme de l'anthropologie française. Alors, finalement, cet exposé, il va osciller entre deux. Il y a deux versants, si vous voulez. Il y a d'une part la question de la méthodologie et de la présentation, si vous voulez, de son travail, sans pour autant, d'ailleurs, le déflorer à votre lecture. Et donc sur certains points qui, moi, me semblent, évidemment, donc là, il ne s'agira pas du tout d'être exhaustif et de vous donner la substantifique moelle dans son entier. C'est impossible, il faut la lire. J'expliquerai d'ailleurs pourquoi c'est un travail assez difficile à restituer, si vous voulez, dans une conférence. Et il y a un deuxième aspect, si vous voulez, qui ne se confond pas. Et là, un peu dans le débat, qui j'espère aura lieu, on verra quelles sont vos préférences pour les interrogations, qui est le sujet, c'est-à-dire masculin-féminin. C'est-à-dire cette problématique de la domination masculine, c'est le titre d'un autre livre qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, de Pierre Bourdieu, et peut-être, et dans une deuxième partie, si vous voulez, peut-être je m'attacherai à tenter de voir comment on peut problématiser la différence entre ces deux façons de penser la différence sexuelle, celle de Françoise Héritier, celle de Pierre Bourdieu. Et donc on verra dans le débat. Alors, en introduction, je voudrais vous restituer un peu le souvenir que j'ai de la connaissance de ses premiers cours au Collège de France avant les travaux, et venant donc de cours essentiellement d'historiens de l'école des annales, d'historien classique, très intéressant, très important. Mais donc, n'ayant pas eu de propédeutique et de préalable à cet étonnement que j'ai eu au premier cours de Françoise Héritier. Il faut savoir donc que les conférences du Collège de France durent une heure. Alors, une heure où Françoise Héritier lit un texte extrêmement serré, si vous voulez. C'est de la couture logique à petits points. Et si on rêvasse deux minutes, on perd le fil, c'est une catastrophe, il faut. Et elle avec l'exercice donc à la fois de quelque chose de rigoureux et de pied à pied, où elle entraîne son auditoire ou son lecteur sans cesse à ne pas à récapituler dans un énoncé cumulatif, si vous voulez, à ne pas perdre en route les définitions préalables, et la façon dont on a balisé la problématique, et comment au bout d'une heure, et c'est une tension, et c'est une aventure, on arrive à quelque chose qui fait paysage et qui donne sens à l'ensemble du propos, si vous voulez. Et en tant qu'étudiante, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'assez magnifique, alors qu'elle-même dit qu'enseigner l'ennui, que c'est pas son truc, etc. Et pourtant, à mon avis, je pense que c'est une des grandes enseignantes de sa génération. Donc, alors, pourquoi et quel est, et dans ce livre, on le voit aussi, mais je renvoie aussi à des textes que je trouve tout à fait intéressants pour ceux qui veulent un peu rentrer plus avant dans sa pensée, sont les restitutions dans l'annuaire du Collège de France de ses cours. Donc, depuis 82, c'est pas régulièrement tous les ans, mais à peu près de temps en temps, on a 4-5 pages où, à mon avis, on a ce sentiment de couture pas à pas et de restitution, si vous voulez. Et ce texte, comme le livre, si vous voulez, donc elle a fait trois livres qui sont devenus, à mon avis, des classiques. Mais il y a aussi ce travail d'enseignante et la restitution donc de ce travail dans les annuaires du Collège de France, à mon avis, qui sont des lectures complémentaires, puisque dans ces deux livres édités chez Odile Jacob, donc la mère et ses deux filles, et celui-là masculin-féminin, ce sont essentiellement des recueils d'articles, mais qui sont cohérents, puisque sont pas du tout des rassemblements artificiels, puisque véritablement, pour le lecteur, chacun des articles fait écho du point de vue de la méthode et de ce qui est proposé avec les autres, puisqu'il s'agit d'une même méthodologie. Alors, premier point de la méthode, enfin, et certainement il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur la méthode. Mais si vous voulez, je vais vous donner quelques pistes, et peut-être dans la discussion, ceux qui veulent aller plus avant, on ira plus avant. Premier point, il me semble qu'il est, et elle le définit un peu dans un article qu'elle a fait sur Claude Lévi-Strauss dans la revue Critique, parue cette année, 99, il ne s'agit pas, toute la question, c'est l'échelle de l'objet d'étude, si vous voulez. Quel est l'objet, quelle est la configuration de l'objet qu'on a décidé de travailler? Dans son cas, elle, il ne s'agit pas, par exemple, d'une monographie de telle ou telle institution ou de tel ou tel type de groupe culturel, chose qu'elle a effectuée pendant des années et qui a donné lieu à un premier livre. Donc, elle était, c'était une ethnologue de terrain qui a travaillé donc, chez la population des Samo du Burkina Faso, où elle a fait, sur les systèmes de parenté, où elle a fait un travail très abouti, très avancé, où elle reprend au début quelques données, et on pourra en parler tout à l'heure. Donc, il ne s'agit pas tant, elle ne fait pas une étude monographique d'un groupe culturel donné. Il ne s'agit pas non plus d'une problématique, mettons, transculturelle à partir d'un thème, qui serait, par exemple, masculin-féminin, ici, là, ailleurs, etc. Elle prend, ce qu'elle explique elle-même, elle prend un ensemble, dans l'article sur Claude Lévi-Strauss, elle utilise le mot matrice, par exemple, mais elle utilise d'autres termes en tant qu'enseignante. Elle dit, par exemple, elle utilise l'expression pelote, une pelote de fils de couleurs différentes. Donc, il s'agit d'un ensemble de schèmes logiquement associés autour d'un thème. Voilà. Alors, ça a l'air comme ça un peu abstrait, mais c'est quelque chose de tout à fait central, c'est-à-dire que ce qu'elle étudie, c'est non pas le contenu sémantique de ces schèmes, des motifs eux-mêmes, par exemple, tel ou tel jugement social sur tel ou tel objet, dans tel ou tel contexte donné. Mais elle étudie la grammaire et les règles contraignantes qui, si l'on accepte certains préalables, conduisent, qu'on le veuille ou non, à certaines conséquences, si vous voulez, à certains postulats. Et ces schèmes, alors quand elle dit qu'elle tire un fil, par exemple, de la pelote, d'une certaine couleur, et elle dévide l'ensemble, et après un autre fil, si vous voulez, et après, à la fin du cours ou à la fin de l'article, on recompose un dessin. Tout ça forme sens, si vous voulez. Elle explique comment il s'agit bien de mettre à plat des schèmes d'association entre motifs, on va le dire comme ça, ou items, ou pour le coup, donc des schèmes d'association qui fonctionnent par prétérition dans la communication sociale, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont tellement évidentes qu'elles ne sont pas énoncées. Sont pas des choses ni inconscientes, ni des constructions sophistiquées, etc., etc. Ce sont les évidences qui vont tellement de soi, de trop conscientes d'une certaine façon, et même en deçà du stéréotype explicite, mais qui surtout qui fonctionnent de façon dans la communication, comme sa toile de fond, qui en réalité dessine autour de la communication explicite sociale un ensemble de balises qui la contraignent, si vous voulez, qu'on le veuille ou non. Et cette espèce de pelote, cette matrice de signification, donc tourne autour de ce qu'elle appelle le corps et ses humeurs. Et le corps et ses humeurs, pourquoi? Parce que ses travaux, pour elle, dans son petit à petit, l'ont conduite, là aussi, ce sont ses travaux qui l'ont conduite à poser la question de l'identité, de qu'est-ce que l'identité, et la question du corps, des humeurs du corps, de leur effet, de leur pression, de la pression de leur interprétation dans une culture donnée, entraîne toute une série de hiérarchies, de clivages, de définitions, et notamment ce qui concerne la différence des sexes, et la grammaire de ces définitions, si vous voulez, ou la logique de leurs associations, produit des effets, bien sûr, différents selon les groupes culturels donnés, on va y venir tout à l'heure, mais, si vous voulez, la logique qui produit ces différences, celle-là, elle est non pas invariante, non pas transculturelle, mais celle-là, elle est logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Donc, effectivement, on la rencontre dans la plupart des groupes culturels connus. Alors, c'est toute la question de la logique, à mon avis, à l'œuvre, du lien entre logique et l'objet corps, avec ses humeurs, qui, à mon avis, est absolument retravaillé de façon très novatrice dans la pensée de Françoise Héritier, le lien entre corps et logique, alors que dans une pensée, dans cette espèce d'imaginaire implicite de l'objet de recherche qu'on a en sciences sociales, on a tendance, si vous voulez, spontanément, et je repense au cours auquel j'assistais avant, d'associer, si vous voulez, les effets de logique ou le champ de la logique ou peut-être le charme de la logique à des objets abstraits, très explicites, et mettre en deçà du côté du corps, etc., l'imagination, des choses justement qui échappaient à la logique. Et c'est cette chose-là, c'est ce profil, c'est cette esthétique de l'objet de recherche, si vous voulez, en sciences sociales, que Françoise Héritier bouscule complètement. Des hiérarchies implicites dans les objets qu'on catégorise, si vous voulez. Me semble-t-il, elle le bouscule complètement. Alors, je reviendrai sur ce point parce que pour le moment, bien sûr, ça reste très abstrait. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le livre « Masculin-féminin », me semble-t-il, on peut lire un peu, on peut sauter un peu d'un article à l'autre puisqu'ils se présentent chacun comme une espèce de petite pelote spécifique, si vous voulez. Mais il y en a un qu'il faut lire au préalable, c'est le premier, sur le système de parenté. Et à mon avis, c'est de ce travail que découle tout ce cheminement de Françoise Héritier qui nous conduit à définir la différence des sexes d'une façon tout à fait particulière. Si vous. Et c'est en même temps la force de sa méthode. Alors, si je reprends le mot logique, on peut dire qu'il a plusieurs faces. Il y a la logique qui transpire, si vous voulez, d'un outillage qui serait mathématique, par exemple. Et d'un côté, et de l'autre, il y a une logique qui tient d'une certaine façon à ce qu'on appelle le bon sens. Et dans mon sens, ces deux aspects du mot logique sont à l'œuvre de façon très rigoureuse dans l'œuvre de Françoise Héritier. Alors, pour le premier chapitre, disons la façon dont moi je vous le résume, qui est peut-être un autre chercheur plus spécialiste dans les systèmes de parenté, vous ferez des dessins au tableau beaucoup plus techniques. Que ce que je vous dis. Et la question des systèmes de parenté, c'est vraiment, on peut être virtuose, c'est presque comme l'écriture musicale, si vous voulez, quand on commence à parler du frère de l'oncle, de la cousine croisée, qui que quoi, etc. Moi, c'est pas mon champ, là, hein. Je vous le dis tout net, c'est pas ça. Mon problème, ce qui m'intéresse, c'est comment cette chose-là a été utilisée et a fait effet dans son raisonnement. À la suite de Lévi-Strauss, il se trouve que dans la plupart des groupes culturels connus, il se pose la question comment organiser la filiation compte tenu du fait qu'il y a en général un père, une mère, les parents de ses parents, et éventuellement des frères et des sœurs des deux côtés, et les générations qui succèdent entre et l'ensemble des générations. Donc on a à la fois, et là encore, c'est très fort quand elle dit d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire quel que soit... Les théories en amont, les présupposés politiques, les écoles épistémologiques, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, il y a une contrainte presque mathématique dans les conditions de possibilité d'organiser le système de parenté pour les différentes sociétés données. Les deux parents, les frères et les sœurs de ces deux parents, les parents de ses parents et les enfants, et tout ça est marqué par la différence des sexes, et compte tenu du fait de cette originalité et de ce qui introduit tout de suite une désymétrie, que ce sont bien les femmes qui portent les enfants des deux sexes, et on reviendra sur ce point. Et donc, au cours de ces travaux, qu'elle a même travaillé dans des banques de données en utilisant l'informatique, donc des choses assez extrêmement pointues et élaborées du point de vue de la démonstration, si vous voulez. Elle a démontré, et là je passe sur l'aspect technique de ça, elle a démontré que quels que soient les agencements possibles dans la dénomination, dans un système de parenté, la dénomination des uns et des autres, si vous voulez, des termes avec lesquels on va désigner la filiation, les affiliations. Père, mère, oncle, fils, grand-père, etc., etc. Bon. Elle va d'abord l'étudier au plan de la dénomination, et après sur d'autres plans. Elle montre que quelles que soient les façons dont on peut agencer des possibilités qui sont en nombre limité. Et c'est le premier point, c'est ce qu'avaient noté aussi des anthropologues du début du siècle, le nombre de possibilités d'agencement de dénomination et d'organisation, de hiérarchisation dans le système de parenté, c'est un nombre limité. Donc, et à l'intérieur de ce nombre de possibilités limitées, il y a certaines possibilités qui logiquement seraient possibles, mais qui ne sont pas pensables. Et il y en a d'autres qui sont qu'on retrouve partout. Et ça, c'est étrange, parce qu'il voulait, si vraiment masculin, féminin, aîné, cadet, femme, oncle maternel, tante paternelle, si vraiment il y avait dans la mathématisation possible du système de parenté, s'il y avait une logique de symétrie, c'est-à-dire si on avait le masculin en face du féminin à égalité symétrique, on aurait un certain nombre de possibilités possibles, pensables, logiquement possibles, sociologiquement pensables, culturellement pensables, et réalisées de façon aléatoire en fonction des sociétés données sous diverses formes. On aurait certaines possibilités où tel type de rapport entre masculin et féminin pourrait être proposé, ou l'inverse, etc. Or, elle a constaté avec des moyens, alors là, très rigoureux, et après elle a utilisé l'informatique, que certaines de ces possibilités n'étaient jamais rencontrées. Et pour résumer et faire très vite, on ne rencontre jamais la possibilité où le frère ou la sœur est en situation d'avoir un ascendant, alors j'utilise ce mot vraiment comme ça, c'est-à-dire un ascendant sur son frère. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont s'agencent les systèmes de filiation, et là il y a quelque chose de très technique, il y a de nombreuses thèses et des thèses, etc., il n'y a pas le cas de figure où le frère serait en situation d'être sous une en situation, mettons, inférieure entre guillemets par rapport à la sœur. Cela, ça n'existe pas, alors que mathématiquement ce serait possible, que le culturellement, pourquoi ce ne serait pas pensable? Eh bien non. Et Françoise Héritier, un de ses points aussi très forts dans sa méthode, c'est que elle travaille le manque, elle travaille ce qui manque, la situation qu'on ne rencontre jamais. Pose question, pourquoi ça manque? Et elle a démontré, et c'est son apport, je dirais, incontournable, scientifique aux sciences de sciences dures, elle a démontré que cette situation-là, jamais on ne la rencontre. Donc c'est quelque chose de tout à fait. Alors, donc si vous voulez, à partir de ce premier travail, donc je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique de ce débat, qui est vraiment très très important, mais qui est quand même un peu autre chose, si vous voulez. Elle a donc repris le... Bon, je vais juste quand même dire une chose. Elle a démontré que, par exemple, dans l'ensemble, mettons en scène un arbre de la filiation idéal typique, c'est-à-dire qui ressemble à rien du tout que ce qu'on connaît, mais qui est une des possibilités. Bon, mettons, prenons le très classique, avec des grands-parents, des parents, des enfants, des frères et sœurs, des oncles, etc. Dans ce qu'elle a étudié, il y a beaucoup de groupes culturels où, par exemple, le fils des deux parents, mettons, appelons-le égaux, appelle sa fille, c'est-à-dire du mot fille, eh bien sa tante maternelle, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un de plus âgé que lui, etc., etc. C'est-à-dire que, et l'inverse jamais, c'est-à-dire qu'elle montre que l'ascendant très important, la différence qu'on retrouve dans de nombreux groupes culturels donnés entre frères aînés, frères cadets, entre parents et enfants, etc., cette espèce de vecteur-là, de verticalité et d'ascendant des uns sur les autres, un ascendant qui se traduit dans les coutumes en termes économiques, coutumiers, juridiques, tout ce que vous voulez, cet ascendant-là recoupe l'ascendant masculin-féminin, qui fait que le masculin est toujours en position d'être l'ascendant du féminin, qui devient l'enfant, si vous voulez. Même il y a certains cas où le petit garçon appelle sa fille, sa grand-mère, en branche maternelle, etc., etc. Me demandez pas de vous conjuguer avec la virtuosité de Françoise Héritier, tous les systèmes d'alliance possibles, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'était très intéressant de voir comment la masculinité implique nécessairement, mais à des degrés différents, et je dirais avec une espèce de violence politique ou sémantique différente, très hétérogène, mais la masculinité implique un espèce de tutorat sur le féminin, quel que soit l'âge et la position des deux sexes, si vous voulez. Et ça n'est pas, comment dire, cette proposition-là n'est pas une hypothèse comme ça flottante, mais c'est quelque chose qui surgit d'un ensemble de calculs qui ont été faits, informatisés, sur les conditions de possibilité, comment les sociétés, un certain ange, comment, dans la plupart des cas connus, les sociétés offrent, offrent leur système de dénomination du lien de parenté entre masculin, féminin, ascendant, descendant, etc. Alors, il me semble que si on n'a pas démarré de cette assise, si vous voulez, qui forme en même temps le gros stock, le gros paquet du travail d'élaboration des données et de terrain de Françoise Héritier, qui a donné lieu à son premier ouvrage et qui inscrit son travail dans la suite de celui dont elle a repris la chaire, c'est-à-dire Claude Lévi-Strauss. Le reste, si vous voulez, les autres articles vont sembler flottants. À mon avis, il faut démarrer de cette espèce de tronc commun à la fois d'implication et de méthodologie qui est son gros travail, où elle a quand même apporté une espèce de démonstration de quelque chose. Et du coup, cette espèce de dissymétrie, alors là aussi, c'est quelque chose de très intéressant dans son travail, c'est comment on est obligé, quand on étudie soit les systèmes juridiques, les dénominations et leurs implicites, on se rend compte à chaque pas comment ego, c'est-à-dire je, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire il, le sujet dont on parle, l'acteur social dont on parle, l'acteur, ego est toujours masculin. Ce qui entraîne en permanence et aussi dans l'énoncé des lois, et ça l'a montré très très bien dans son étude sur l'inceste du deuxième type, comment en permanence il y a un effet, si vous voulez, de ce que Simmel appelait on masculinise l'universel, c'est-à-dire d'orientation de ce dont on parle, un effet, un tropisme, une courbure du champ, comme selon une expression qu'elle a reprise à Claude Lévi-Strauss, ce qui fait que ego masculin parlant pour l'universel délimite toute une série de pratiques et de regards où en réalité le féminin là-dedans n'est pas l'inverse, n'est pas le symétrique inverse, mais est en position en réalité légèrement inférieure. Et c'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes et qu'il faut bien définir si on ne veut pas rentrer, si vous voulez, dans des polémiques qui sont en fait qui sont pas ce dont on parle. Alors, je voudrais encore dire certaines choses sur sa méthode. Le fait qu'elle réfléchisse, qu'elle prenne comme thématique, donc un ensemble de schèmes associés, logiquement associés, mais une association implicite qui fonctionne par prétérition, autour d'un ensemble thématique, on va reprendre le corps et les humeurs du corps, ça produit plusieurs effets, si vous voulez. Ça veut dire, premièrement, et on le voit très bien dans l'article sur les pieds déchaussés, les figures unilatérales du corps, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Pour le moment, je voudrais avancer un petit peu. On voit bien, elle met sur, si vous voulez, toute une série de clivages entre disciplines qu'on a dans les recherches universitaires plus classiques, qui opposent, par exemple, la littérature, où il y aurait l'imagination, et les statistiques sociologiques, où il y aurait des choses plus résistantes, plus objectives, etc. Tout ça, avec un regard comme celui de Françoise Héritier, éclate complètement. Parce qu'en réalité, elle va faire quelque chose que je trouve absolument très riche, très évident, mais encore fallait-il y penser, c'est-à-dire qu'elle va étudier délibérément les travaux d'autrui, mais tous ceux qui peuvent, dont elle peut, tous ceux qui peuvent être instructifs pour elle par rapport à sa thématique, c'est-à-dire qu'importe que ce soit ici un thème rencontré dans un rêve de Freud, là, un motif de rituel que répertoriez dans tel type de source sur comment quelque chose se passe dans l'Égypte ancienne. Là, un énoncé, un proverbe de la France rurale traditionnelle du XIXe siècle, si vous voulez. Elle utilisera donc transversalement toutes les niches de bibliographiques, toutes les références qui, pour elle, rentreront dans sa thématique et qu'elle se mettra à la verticale de ça. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, si vous voulez, on est dans cette espèce d'histoire intellectuelle, scientifique, où l'anthropologue cite dans son travail une généalogie de textes anthropologiques, par exemple la différence des sexes depuis Bachofen, 1861, chez un tel, chez un tel, chez un tel, etc. Et on arriverait, eh bien voilà, jamais elle ne fait comme ça. Elle prend, je dirais, le thème, la différence des sexes, dans sa définition essentielle la plus forte, donc la plus évidente, la plus banale, la plus non scientifique. Le problème n'est plus là. Il n'y a plus d'écart, ce qui n'est pas scientifique, ce qui est scientifique. Et la prenant comme ça, donc c'est une différence qui apparemment à l'air lié à la sexualité, à la fécondation, etc., donc aux humeurs du corps, à toutes ces choses-là. Et donc, elle prend tous ces objets-là, elle les prend, elle leur fait face avec beaucoup de rigueur et elle les étudie là où elle les trouve. Et donc, ces exposés, comme certains des articles ici, on voit bien comment, en un premier temps, il s'agit, et ça c'est très intéressant sur sa méthode, et c'est là, quand il y a un débat avec des féministes ou avec plus dialectique, plus articulé, on sent bien compte qu'il y a deux niveaux qui sont en réalité, qui ne se recouvrent pas, qui ne se rencontrent pas. Donc elle, elle met à plat en un premier temps, grâce aux recherches d'autrui qu'elle utilise, au lieu que les recherches se multiplient pendant deux siècles, trois siècles de vie scientifique, elle les utilise, elle met à plat, voilà comment ça se passe ici, voilà comment ça se passe là, 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 là. Et dans ses cours, elle citait cette référence à Devreux qui disait, qui repartait sur cette idée qu'il y a un nombre de possibilités limitées pour agencer certains thèmes en anthropologie, et donc des thèmes d'histoire culturelle. Et elle dit comment... Alors, et lui ajoutait ce qui peut être... cauchemar, symptôme de folie ici dans telle société, sera dans telle autre, rituel prescrit et normatif, si vous voulez. Ça, c'était Devreux. Et elle reprend un peu tout à fait ça. Et le fait qu'une situation soit décrite dans une œuvre de fiction, le problème n'est pas est-ce que c'est vrai, c'est une représentation, c'est une pratique, non. C'est le fait que ce soit décrit, ça montre que c'est pensable. Et le fait qu'un certain type de motif soit pensable, du coup, l'inscrit dans cet ensemble de comment les cultures traitent de façon logique, contraignante, mais disparate, et au bout, quand les années passent, les décennies, etc., et d'une certaine façon, elle le dit très bien, on ne peut pas revenir en arrière du comment se sont élaborés les choix, finalement, mais comment les cultures traitent, hiérarchisent, organisent certains objets, qu'on le veuille ou non, et pour des raisons qui ne sont pas du tout, si vous voulez, de gratuites et aléatoires. Alors, et quand elle a bien mis à plat ces différentes possibilités d'organiser certains thèmes, si vous voulez, en conclusion, elle reprend tout ça, elle redonne sens à tout ça. Il y avait eu un papier dans un numéro de la recherche l'année dernière sur les mathématiques, qui était un très beau papier, fait par un mathématicien, qui expliquait, alors comme j'y pense comme ça, je m'excuse, je n'ai pas les références, mais il n'y en avait qu'un comme ça, où il montrait comment, finalement, il disait, mais les mathématiques, ça fait voir. Parce que les mathématiques, c'est ce qui fait voir les objets. Et il démontrait comment, quand il y a de l'opacité, le fait qu'on puisse rendre compte mathématiquement de l'objet opaque, l'éclairer. Et d'une certaine façon, je trouve qu'on pourrait élargir ça à la logique. C'est-à-dire que d'un travail, une pensée comme celle de Françoise Héritier, en utilisant la logique... n'explique pas forcément, peut-être, ce qui est en cause. À chaque fois, on pourrait dire, mais il faudrait faire une monographie, les conditions de production, etc. Mais elle, en réalité, sa description fait voir l'objet, le rend, au lieu d'abraser les significations, inscrit ces significations dans une démarche d'une telle logique que ce qui, avant son étude, avant de l'avoir lu, avant de l'avoir entendu, ce qui pouvait sembler tellement bizarre, comme un rituel, par exemple, après l'avoir lu, bon, elle l'a fait voir. C'est-à-dire que ça rentre dans cette espèce de rationalité que, finalement, dont on peut supposer que tout travail culturel sur un objet donné, quel qu'il soit, à tous les niveaux, dont dépend n'importe quel énoncé dans l'ordre des savoirs. Ainsi, par exemple, on pourrait se poser la question, mais pourquoi cette idée que se lever du pied gauche le matin, ça fait une mauvaise journée, et du pied droit, non, et des deux pieds en même temps, quoi. Et quand on a lu son travail sur les figures unilatérales du corps, le pied déchaussé, etc., eh bien, à mon avis, l'opacité qu'il y a dans cette coutume, qui peut sembler bizarre, folklorique, de cette idée que se lever du pied gauche, ce ne serait pas la même chose que se lever du pied droit, qu'il y aurait une dissymétrie, que ce serait moins bien, que ça aurait des effets un peu glauques sur la journée, eh bien, après avoir lu son papier, eh bien, non. Cette espèce d'opacité de l'énoncé auquel on ne comprend rien et qu'on trouve un peu bizarroïde et qu'on balance du côté du non-savoir, du savoir féminisé, non-savant, de la sagesse des nations qui est un tissu de platitude, etc., et bien tout à coup, reprend sens complètement. C'est-à-dire que ça redevient, elle le fait voir, c'est une espèce de logique à l'intérieur d'un système donné, etc. Alors, donc, si vous voulez, alors de même, qu'elle utilise des champs de recherche complètement disparates et des disciplines disparates. De même, l'opposition entre imagination et logique éclate, puisque tous les thèmes qui sont pensables relèvent de cette logique associative dont je parle, dont elle parle, et donc tout bascule du côté de la logique, en réalité. Et troisièmement, l'opposition qu'on pourrait faire entre une culture savante et une culture non savante dans une société donnée explose aussi. Ou bien même, je dirais, l'opposition qu'on pourrait faire entre les cultures d'avant le 19e siècle, d'avant la science, et celle et la façon de penser maintenant que l'on croit scientifique, etc., celle-là aussi, elle est volatilisée. Et du point de vue de la question de la différence des sexes, c'est très intéressant. Alors maintenant, j'en viens un peu à la question de la valence différentielle des sexes. Si elle cite aussi dans son travail cette histoire des femmes en 4 tomes parue il y a quelques années, dirigée par Duby, Michel Perrault et Georges Duby, et qui tentait de restituer une historicité qui serait celle liée aux femmes, si vous voulez, puisque combien de fois et les féministes, la pensée féministe, à juste titre, depuis les années 70, mais aussi des tentatives plus abouties, par exemple, des historiennes québécoises avaient tenté de faire une histoire, de retrouver une historicité proprement féminine. Donc des dates importantes, c'était plus, mettons, la prise de la Bastille, mais c'était, que sais-je, moi, l'invention de la machine à laver, que sais-je, moi, etc. Si vous voulez, cette idée, mais il y aurait une historicité propre au monde, à la vie des femmes, qui aurait été, qui serait masquée, qui serait rendue invisible, puisque ego est toujours un universel masculinisé, donc il y a il faudrait restituer cela. Or, ces 4 tomes, l'histoire des femmes, donc de l'Antiquité à nos jours, qui sont très intéressants, qui fourmillent de données, qui sont, etc., en fait, ont mis les historiennes en face d'une espèce d'aporie, de mur contre lequel elles se tapaient la tête, d'infernales répétitions depuis les Grecs, alors qu'on est plutôt dans une époque épistémologique où on privilégie, si vous voulez, comment dire, le fait que chaque société invente complètement et réinvente la spécificité de son rapport, sa construction culturelle, de chaque objet, si vous voulez. Et donc, on serait plus tenté, enfin, je parle peut-être des historiens de la génération après 68, de décider, décider entre guillemets, ça fait partie des choses en amont par prétérition qu'on ne sait pas qu'on décide, mais qu'on décide que quand même, chaque époque historique, étudié par l'historien, on ne peut pas, faute d'anachronisme, rentrer dedans comme ça, on n'a pas les moyens, et tout est tellement différent de ce qu'il y a avant, après, etc., donc tout est une question de quelle est l'échelle avec laquelle on va découper l'objet, que donc on ne peut absolument pas comparer, mettons, la domination masculine chez les Grecs anciens et la domination masculine à la cour de Louis XIV. Donc il y avait cet a priori des historiennes qui aurait quelque chose de linéaire, qu'il y aurait de l'hétérogénéité, qu'il y aurait des événements, des changements, etc. Et hélas, dès que les travaux étaient un peu massifs, on retombait dans l'infernale opposition du dedans, du dehors, de l'espace public, politique, masculinisé, etc., de la place publique, etc., de l'espace privé, féminisé, j'allais dire sombre, humide, plus froid, etc. C'est l'opposition d'Aristote dont parle Françoise Héritier, à la limite presque, des femmes qui, dans la maison, les enfants, etc., etc. Et dès qu'au fond, les historiennes, même les plus, comment dire, libertaires et celles qui ont le plus la haine de la spécificité du féminin parce qu'elles ont le louable désir de vouloir poser l'égalité dans toutes ses dimensions, etc., eh bien, on se retrouvait en face d'une opposition qui est l'opposition du stéréotype, si vous voulez. Et donc, toutes les études montraient, dès qu'on parle des femmes, on aborde la problématique du corps, de la sexualité, des enfants, de l'intérieur de la maison, etc., etc. Et on a toute une définition de l'opposition masculin-féminin qui, malgré des champs hétérogènes, malgré des périodes historiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, faisait écho, et trop, et ça, à tel point que c'était comme une espèce de catastrophe épistémologique, comme si vraiment les femmes n'avaient pas d'histoire, puisque c'est toujours la même histoire, si vous voulez. L'histoire d'un échec, l'échec de l'entrée dans le monde à égalité, symétriquement, peut-être de façon différente mais symétriquement, à égalité dans tous les champs sociaux. Et ça, on ne l'avait jamais. Donc il y a une espèce d'impasse comme ça de l'histoire des femmes, parce que en réalité, la question de la différence des sexes, elle est historique, certes, mais elle est anthropologique. C'est-à-dire qu'elle relève d'une autre problématique. Et c'est là que les travaux de Françoise Héritier, loin de s'opposer aux travaux des historiennes, si vous voulez, nous permettent au contraire d'essayer de contourner un peu cette impasse. Alors juste un point d'arrêt sur la question des échos, parce que c'est des échos et des homologies. Ce qui me frappe bien souvent dans les recherches universitaires plus classiques en sciences sociales, quoique Françoise Héritier est classique, mais je veux dire, mettons des historiens par exemple, ou des sociologues, il y a comme une espèce d'interdit de penser l'homologie. Et même dans l'histoire de la pensée des historiens ou l'histoire de la pensée anthropologique, Françoise Héritier montre bien, mais là on en a souvenir dans nos études, à quel point, par exemple, quand un motif ou une technique apparaît ici, la tendance forte, mais implicite aussi là aussi, d'explication privilégie tout le temps l'idée de diffusion. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'interprétation des faits de société dans l'histoire, dans l'historiographie française, prenons l'histoire plutôt, mais l'histoire même pouvant traiter des périodes préhistoriennes, si vous voulez, on est dans cette tendance, on n'arrive pas à comprendre la naissance d'un fait technique, d'un fait institutionnel, d'une invention, quelle qu'elle soit. La naissance, on n'arrive pas à l'apercevoir. Mais par contre, ce qu'on arrive à cerner, ce qu'on préfère épistémologiquement, c'est la diffusion et l'emprunt. Donc vous avez de nombreuses recherches qui disent, bon, peut-être le matriarcat avait lieu ici, etc. En fait, bon, c'est que le matriarcat n'a pas existé. Et il aurait pu, donc, dans les sociétés sans histoire, des chasseurs-cueilleurs, peut-être qu'il y aurait eu la diffusion de ceci, cela. Bon. En réalité, pourquoi la pensée scientifique en sciences sociales préfère penser l'emprunt, la diffusion, etc., plutôt que l'homologie en tant que telle, c'est-à-dire des échos, des choses qui se répondent, c'est parce que l'homologie, elle est troublante, elle suppose un autre outillage épistémologique, si vous voulez. Or, le problème avec la question de la différence des sexes, c'est que la plupart des sociétés connues, et pour Françoise Héritier, c'est à peu près, elle pense, bon, elle y aurait... Rien que sur cette phrase, si vous voulez, il faudrait voir les anthropologues du début du siècle, il faudrait voir qu'est-ce qu'on dit par les sociétés connues et comment elles ont été étudiées. Mais en gros, elles offrent des homologies en termes de valence différentielle des sexes, c'est-à-dire en termes d'inégalité entre masculin et féminin. Si on accorde au mot d'inégalité, non pas un sens comme après la Révolution française, mais une dissymétrie négative, si vous voulez. C'est-à-dire que le rapport au pouvoir, au savoir technique, au savoir comment manier les armes, au savoir performant, etc., au sacré, sera, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si le mot apanage est correct, mais disons, sera le monopolisé plutôt par le sexe masculin que par le sexe féminin. Et voilà. Et on le constate. Et elle explique que même dans nos sociétés à nous, où on assiste quand même à un maximum de tentatives de, appelons ça parité, d'égalité apparente. Finalement, c'est ça, la parité. C'est un espoir, un vœu d'égalité apparente. Et bien qu'en réalité, tous les secteurs de pointe, les astronomes sont des hommes, l'informatique de haut niveau est masculinisée, est un secteur masculinisé, mais je pense que ça peut ne pas durer. Mais les aviateurs, le haut clergé, les hiérarchies du clergé les plus importantes. Hein, le Christ est une figure masculine, même si on dit ça aurait pu être une femme, un homme, il fallait bien que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas une préférence. Bon, mais. Si vous voulez, bon. Et donc, cette espèce de valence, de présence, de dissymétrie permanente entre la présence du masculin sous sa forme universelle parfois et du féminin sous sa forme, donc du coup, spécifiée, caractérisée autour du corps, etc., règne complètement dans notre société aussi, qui pourtant est un exemple le plus achevé de tentative d'égaliser tout ça. Alors, une fois qu'on fait ce constat, c'est un constat, encore fallait-il le faire. Si vous voulez, c'est pas un destin, c'est pas une fatalité, c'est un constat. Les femmes, masculins et féminins, ne sont pas en situation soit d'exacte parité à égalité face sur le front du social, si vous voulez, soit inversement complémentaire, l'un étant, au regard d'un miroir, le symétrique inverse de l'autre, à égalité. Non, c'est pas le symétrique inverse, c'est une espèce de réciproque dissymétrique, c'est une dissymétrie différentielle et infériorisante, si vous voulez, qui concerne les femmes. Et dans le mot infériorisante, il ne faut pas mettre un contenu qui serait rétrospectif, qui serait trop militant, politique, etc., qui peut le devenir, mais c'est une position, si vous voulez. C'est une position. Et, si vous voulez, c'est une position, et la question, par exemple, du stigmate, comme Goffman, ou la question sociologique de l'inégalité, c'est un peu une autre problématique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, grâce à elle, parce que finalement, avant elle, soit on avait des études qui traitaient de telle ou telle société, et finalement, en Kabylie, les premières études de Bourdieu, les femmes à l'intérieur de la maison, la lune qui s'oppose au soleil, comme le féminin s'oppose au masculin, comme le froid, l'humide, le sombre, l'obscur, l'intérieur de la maison, le ventre, les cavités, sombre, froid, humide, etc., s'opposent aux choses solaires, chaudes, actives, etc., etc. Et toute cette espèce, on avait dans telle culture, c'est comme ça, dans telle culture, c'est comme ça. Et Françoise Héritier dit, c'est à peu près comme ça tout le temps. Voilà. Alors, il faut faire face à cela, à cette espèce de constat. Alors, là, elle a finalement, non pas un système d'explication, mais la façon, sa théorie épistémologique rend compte de cette valence différentielle des sexes et de l'effet que ça produit. Donc, elle va pas, à mon sens, elle ne dit pas pourquoi c'est comme ça, avec une réponse, etc. Non, mais si on accepte le cadre dans lequel elle définit, elle, ce qu'est la culture, ce qu'est la pensée, si on accepte ce cadre, alors il se trouve que cette valence différence des sexes se déduit logiquement, sans que, de mon point de vue, ça signifie que ce soit un destin universel, si vous voulez. Puisqu'il suffit que les prémices qui ont entraîné l'organisation logique qui produit cette valence différentielle, bascule et change, comme elle le dit très bien, pour que la situation change. Et ces prémices, ils n'ont pas à voir avec le politique, le droit de vote, etc. Ils ont à voir avec le statut dans une société donnée, le regard sur la différence des sexes, en tant que les deux sexes ne sont pas en position d'égalité au regard de la procréation. Et la façon dont les cultures doivent, pour survivre, nommer cela et organiser cela. Alors, disons trop vite, il faut quand même donner quelques cadres de sa pensée pour arriver à serrer de plus en plus près cette dissymétrie entre les deux positions de chacun des sexes, si vous voulez. Après donc, toutes ces années de travail, elle propose quelque chose, elle dit qu'on ne peut pas démontrer, mais aucune méthodologie ne pourra jamais le démontrer, puisqu'on ne pourra pas faire un voyage dans le temps pour interroger les premières sociétés naissantes des chasseurs-cueilleurs qui ont duré d'ailleurs 100 000 ans, d'Homo sapiens sapiens, dans leur tentative d'organiser les systèmes de parenté et de filiation. Donc on ne l'aura pas. Mais elle propose ceci, elle dit finalement, ce que le groupe culturel, ce à quoi il bute, ce qu'elle appelle les butoirs de la pensée, ce sont les données premières du monde matériel qui l'entoure, et en ce sens, elle dit que sa pensée est matérialiste, et qu'il faut bien, c'est ce sur quoi on bute, et auquel il faut bien donner, traiter, c'est-à-dire encadrer, agencer dans une culture pour survivre, si vous voulez. Alors, ce sont les grands cycles, mettons jour, nuit, le fait, tout ce qui a trait au fait de la survie, les blessures, le sang, le corps. Et elle dit, la différence des sexes est donc la première différence sur laquelle bute le regard, la pensée humaine, à tel point, dit-elle, et elle le propose dans son ouvrage, que toute pensée de la différence est fondée sur le constat de cette différence sur laquelle on bute, qui est la différence des sexes. Et évidemment, c'est une différence assez urgente, je dirais, à penser pour l'espèce humaine, puisque de la pensée de la différence résulte, oui ou non, la possibilité de la transmission, de la procréation et de la transmission de l'identité collective. Et donc, pense, et alors, ce butoir de la pensée qui est la différence des sexes nous montre, alors, font que par exemple, entre le corps masculin et le corps féminin, par exemple, le rapport au sang est différent. D'où toute une étude de Françoise Héritier, une recherche sur le fait que l'homme verse le sang, donc un sang aléatoire, lié à la violence, lié à une action sur le social, avec ou non une arme, etc., éventuellement, alors que la femme a ses règles tous les mois, qu'elle le veuille ou non, et que ça entraîne, du point de vue de la société qui entoure cela, toute une série de codes dont le sens peut être différent en fonction des sociétés, c'est-à-dire le, dans un tel ou tel cas, signe d'impureté, de souillure, dans tel ou tel cas, cette souillure devient précisément l'inverse, une chose quasi sacrée qui peut soigner, guérir, etc. Une chose de... Mais disons qu'il faut bien traiter cette chose troublante, que les femmes ont des règles tous les mois, et donc le sang, comme on disait, comme dans toutes les enquêtes, comme montraient les ethnologues françaises, dans toute une série de livres sur la région de Minot, l'expression « voir ». Elle a vu, quand on parle d'une jeune fille, c'est Yvonne Verdier qui avait bien montré ça, Françoise Zonabend, etc. Donc voir le sang, c'est avoir ses règles, si vous voulez, que c'est voir, là encore. Et donc les femmes ont un rapport au sang, tout à coup, lorsqu'il y a un bébé, lorsqu'elles sont enceintes, il n'y en a plus, si vous voulez, et ça, c'est un butoir pour la pensée. Et donc, les médecines traditionnelles, les proverbes, tous les savoirs sociaux ont tous fait un sort, ou dans les grands codages des grandes religions écrites, si vous voulez, on fait un sort en termes au corps féminin, à la façon dont il s'alimente, à la façon dont, oui ou non, qu'est-ce qui se passe quand les règles, il y a les règles, il n'y a pas les règles, la sexualité, pas la sexualité, l'allaitement, pas l'allaitement, comment l'ensemble des savoirs connus, que ce soit les savoirs coutumiers dans une région donnée qui se transmet oralement par proverbe, ou que ce soit les savoirs des médecins qui, à leur époque, étaient les plus distingués au plan scientifique, comme les médecins de Montpellier au XVIe siècle ou au XIVe siècle déjà, ou les travaux d'Ambroise Paré, etc. Et donc, toute science sur le corps, où elle reprend aussi Aristote, nous informe sur un statut des humeurs du corps, de sa température et des effets de ce fonctionnement sur, mettons, des recettes de qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire. Et un des articles les plus, à mon avis, les plus extraordinaires et heuristiques de Françoise Héritier, c'est celui qui s'appelle qui commence par la mauvaise odeur, l'a pris. Et où à la fois elle met en relation des sources, encore une fois, très disparates. Donc, il y a un médecin du XVIe siècle qui explique que quand les nourrissons sont grognons, etc., etc., c'est que la mauvaise odeur du lait les rend malades. Mais en même temps, elle met ça en relation avec une source beaucoup plus ancienne d'un texte acadien qui remonte à, je ne sais plus, le 4e, le 3e millénaire avant Jésus-Christ, etc., où on dit le bébé, lui, quand il est grognon, qu'il vomit, qu'il a besoin, c'est la mauvaise odeur l'a pris, quand il est, etc., etc., la mauvaise odeur du lait. Et en fait, en étudiant plusieurs textes comme ça qu'elle met à plat, elle montre comment lorsque la nourrice, soit à ses règles, soit une relation sexuelle, dans des médecines, dans des regards médicaux, dans des terrains hétérogènes, si vous voulez. Et là, il n'y a pas eu de transfert, ni de diffusion, ni d'héritage de savoir. Propose cette solution que ça gâte le lait. Ces pathologies spécifiques de la médecine d'ancien régime, de la mauvaise odeur du lait de la nourrice, elle rend compte avec une analyse qui met à plat les façons dont dans d'autres cultures on traite cette question de la qualité du lait. Et par exemple, elle en restitue les fondements. Bon, là, il faudra aller plus avant, mais je vous renvoie à l'article, mais pour cette chose précise. Donc, il y a cette opposition qu'on retrouve dans Aristote, qu'on retrouve dans toute une série de cultures, entre le féminin qui est plutôt froid, humide, etc. Elles peuvent manger des salades, etc. Ou au contraire, les salades lui sont interdites, puisque dans la diététique ancienne et dans l'espèce de logique mise en œuvre dans ces types de pensées associatives, elle constate que soit le même sur le même produit une conjonction jamais indifférente, mais soit positive, soit négative. Et ceci s'oppose donc au masculin solaire, pour lui les choses chaudes, le masculin vertical, le masculin, etc., qui, ces choses-là s'opposent. Mais dans les femmes elles-mêmes, la femme brune à peau blanche sera moins froide que la femme blonde à peau blanche, mais sera moins chaude que la rousse. Donc on voit tous les portraits de la bonne nourrice. Et il y a, bon, elle ne les cite pas, mais il y a toute une série de textes qui s'appellent les Callipédis pour faire des beaux enfants du XVIIe siècle, qui, je crois, n'ont pas été étudiés par des historiens. Ce sera un beau sujet de thèse de mémoire, etc. C'est comment doit être la belle nourrice. Donc comment... Et vraiment, la définition de la beauté de la belle nourrice, très importante, puisque toutes les... c'est vraiment ça, c'est comment elle doit être ni ceci, ni cela, etc. Du coup, qu'elle soit rousse, blonde, etc. Enfin, son corps est important pour la qualité du lait. Mais aussi le fait que, eh bien, il y a cet interdit qu'on constate dans plusieurs cultures, qu'il vaut mieux que la nourrice n'ait pas de rapport sexuel pendant l'allaitement, ou que ce soit très éloigné, et que donc elle n'ait pas ses règles non plus, si vous voulez, les deux étant liés. Et donc c'est un article tout à fait fascinant, et là elle rend visible, à mon avis, de façon tout à fait convaincante, des motifs, j'allais dire presque ritualisés, par exemple, de notre histoire médicale, avant le XIXe siècle, ou même en plein XIXe siècle, des textes encore, ou même en plein XXe siècle, des textes qui sont pétris de ces schémas associatifs, elle rend visible la logique de ces choix. Alors que sinon, ces choix sont perçus, si vous voulez, l'histoire de nourrice, on peut dire, bof, superstition, pré-scientifique, ou que sais-je. Alors, donc, il faudrait revenir à un article précisément de Françoise Héritier et le déplier. Mais je voudrais arriver plutôt, on peut le faire si vous posez des questions, mais plutôt arriver en troisième partie et dernière partie à cette question vraiment sociologique, politique, de quid de la domination masculine, et qui a donné lieu à toute une série de débats, puisque donc soit si on retrouve cette valence différentielle des sexes dans la plupart des groupes culturels connus, y compris le nôtre, et qu'elle est fondée sur la prise en charge de la différence concernant la procréation qui est dissymétrique entre masculin et féminin, dans la plupart des groupes connus, est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas changer, etc. Alors c'est là où il faut repérer à l'intérieur de son texte ce qu'elle donne comme information, parfois dans des endroits un peu étonnants de l'article ou du livre lui-même, c'est-à-dire jamais comme clé vraiment, mais quand même elle l'indique. Et peut-être c'est ça qu'il faudrait aussi travailler et qui me semble être une piste tout à fait centrale et novatrice, qui alors là, du coup, on n'est plus du tout dans Bachofen, on n'est plus du tout dans les théories, dans les genèses des women studies, où on essaye de percevoir le moment où l'homme a de la domination politique masculine, etc. Là, c'est encore un peu autre chose, quoique ça se recoupe, évidemment. Donc, elle propose le fait que, bon, le butoir de la pensée, les femmes ne sont pas comme les hommes au regard de la procréation, pour plusieurs raisons. D'une part, lui, va être responsable un temps court, qui ne l'empêche pas après d'aller chasser, qui ne l'invalide pas après pendant 9 mois et même 2 ans. Elle, après ce temps de la conception... Elle, après le temps de la conception, est quand même pendant 9 mois dans un rapport à la mobilité. Il y a eu des études de mobilité des femmes et des hommes chez les bushmen du désert du Kalahari. Je crois que c'est ça qu'elle cite à un moment, où les uns peuvent faire des kilomètres incroyables, alors que les autres, les femmes, beaucoup moins. Point à la ligne, surtout si elles ont tous les 2 ans un enfant, etc. Donc l'immobilité, la problématique au regard de la mobilité des femmes à cause du fait qu'elles sont quand même, elles ont cette grossesse et après ce devoir de maternage, sans lequel le petit humain ne peut pas survivre. Mais pendant cette période-là, ce sont sur le front de la procréation, si vous voulez, c'est elles qui sont maîtresses du jeu, maîtresses du savoir de qui est le père, premièrement, ce qui n'est pas un savoir anodin pour la problématique de la transmission de la filiation, et maîtresses du jeu parce que sans elles, on ne voit pas comment faire, si vous voulez. Et comment la société d'hommes et de femmes... Mais les hommes aussi ont encadré cette période dangereuse où les femmes sont à la fois moins mobiles, doivent être protégées, mais en même temps sont au premier rang sur le front de qu'est-ce qui se passe et qui est maîtresse du jeu, du savoir et même des faits pour la procréation. Et donc la société masculin-féminin, mais la société où l'universel est masculinisé dans la plupart des cas, prend en charge, si vous voulez, cette période dangereuse et la codifie de façon à ce que, d'une certaine façon, toute la responsabilité de la transmission de la filiation échappe à la femme, qui pourtant porte pratiquement dans les pratiques la véritable responsabilité. Et on voit très bien comment, dans de nombreux groupes culturels connus, le rapport à la virginité des filles et des garçons, à l'adultère des maris et des femmes, offre cette dissymétrie de façon criante, cette dissymétrie judiciaire, morale, etc. Donc le tabou de la virginité pour les filles, dont une lecture féministe peut dire oui, c'est pour les dominer leur sexualité dangereuse, etc. Oui, non, mais surtout, c'est pour contrôler ce moment et ce savoir sur comment on transmet la filiation. Mais d'ailleurs, ce tabou de la virginité n'est pas du tout un universel, puisqu'il y a bien des groupes culturels connus où les jeunes filles, au contraire, ont toute une période, et les garçons aussi, de vie sexuelle libre, et où la paternité légitime, ce sera institué différemment. Alors donc, quant à l'adultère des femmes et des hommes et des maris, ça c'est flagrant. D'ailleurs, c'est toute la culture occidentale. Il n'y a aucune symétrie. L'adultère des femmes, quelque chose d'absolument calamiteux qui met en péril quasiment la nation. Et l'adultère des maris, c'est rien du tout. C'est une espèce de petite bricole de rien du tout. Avec évidemment les problèmes du sida et tout ça est repensé, mais quand même on voit ça dans toute notre culture romanesque, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais le fait de la dissymétrie, si vous voulez, qui pouvait sembler incompréhensible, ne doit pas être interprété seulement d'une façon politique-morale, si vous voulez, mais anthropologique. Il s'agit bien pour la société hommes et femmes, parce que ce sont bien les femmes qui mettent en scène toutes ces règles qui contrôlent le féminin, d'instituer, de faire coller autant que faire se peut l'institution de la transmission sociale de la filiation, économique, juridique, tout ce que vous voulez, du nom, et la réalité des faits de la procréation, où là, tout à coup, les femmes sont maîtresses du jeu. Et alors là, moi, je trouve qu'il y a une piste très forte, très importante, et même on pourrait la vérifier avec des motifs et des thèmes que Françoise Héritier elle-même n'a pas étudiés. C'est une piste très différente de ce que propose Pierre Bourdieu dans son petit livre sur la domination masculine, qui est un livre, il faut bien dire, assez rapide, où il reprend encore la valence différentielle des sexes assez rapidement, mais où il reprend ses études sur la Kabylie, où on oppose un monde féminin, humide, sombre, obscur, etc., qui étaient des belles études en leur temps, à un monde masculin, de l'extérieur, solaire, on sort, etc., etc. Donc tout ça... Ou d'ailleurs, des ethnologues kabyles trouvent que non, c'est pas comme ça. Ils ont fait un article de réponse dans une revue. Bon, enfin, passons là-dessus. Le problème n'est pas tellement là. Mais surtout, lui fait appel, si vous voulez, à une notion qui n'existe pas dans la problématique de Françoise Héritier, qui est, appelons ça, un inconscient social, un inconscient collectif. Dans la problématique, dans la construction de l'objet, pour quelqu'un comme Françoise Héritier, on n'a pas besoin d'inconscient social. Les choses fonctionnent par prétérition. Et les choses, si elles ne sont pas explicitées, elles sont non explicites, ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles soient inconscientes. De toute façon, le stéréotype circule de façon trop consciente, d'une certaine façon. Donc, impensé. L'impensé n'est pas l'inconscient. Elle n'en a pas besoin. Mais Bourdieu en a besoin. Or, c'est quand même, si vous voulez, une notion pas du tout démontrée, très lourde, à mon avis, extrêmement sujette à caution, etc. Et il dit donc... Et lui... Il prend le mot culture comme une espèce de puissance d'inscription au plus profond du corps de certains schèmes qui sont collectifs. Et il explique que au plus profond du corps de la femme, alors à mon avis, le plus profond du corps de la femme, je suppose que ça doit être tout au fond de l'utérus, la première à gauche, tout au fond, là, etc., parce que je ne vois pas où est le plus profond du corps de la femme. Donc au plus profond du corps de la femme est inscrite la domination d'une façon... tellement, où la culture a tellement gagné sur les molécules corporelles, si vous voulez, qu'il le dit en toutes lettres, quoi qu'elle fasse pour croire qu'elle se libère, elle n'y arrive jamais. Donc c'est sa façon à lui d'expliquer l'éternelle domination masculine, c'est que les femmes, quoi qu'elles fassent, elles sont tellement pétries au plus profond de leur corps, de leur matière corporelle, de cet inconscient acquis culturellement au cours des générations, comme s'il y avait une espèce de sédimentation des générations, etc. Et c'est tellement pétri que même les plus échevelées d'entre elles, celles qui veulent se libérer en s'accrochant au rideau, etc., eh bien, elles se trompent, elles n'y arrivent pratiquement jamais. Et ça, c'est très intéressant de voir que c'est un homme, un sociologue, qui propose une vision apparemment beaucoup plus politique, puisque pour lui, le mot domination est véritablement une domination, je dirais, presque perverse comme ça. Mais en même temps, plus politique, mais en même temps, je dirais, sociologiquement, complètement désespérante, puisqu'elle est fondée sur il est obligé, pour mettre en scène l'évidence de cette domination, la profondeur de son inscription dans le corps, sur le corps et dans les pratiques, il est obligé de faire de la culture une espèce de puissance d'efficacité quasi matérielle, si vous voulez, qui est de naturaliser la culture en quelque sorte. Et de supposer que la culture dans une société donnée, c'est quelque chose qui s'épaissit avec le temps, que le temps, les générations, quelque chose s'épaissit et rentre plus avant et pétrit le corps même des sujets. Parce qu'il va même à dire, bon, la différence des corps, c'est culturel, le fait que les femmes aient une poitrine et les hommes, ils ont autre chose, c'est culturel. Donc ça va tellement avant dans les regards, si vous voulez, ce qu'on croit être biologique, c'est culturel, qu'on ne peut absolument pas, à mon avis, dans la lecture du livre de Bourdieu, ou à mon sens, je crois qu'il devra en convenir, il a été un peu vite pour ce sujet très, très, quand même difficile et important quand même. Et donc, on ne peut pas s'en sortir pour des raisons de tel acquis culturel que cette inscription, cette construction culturelle est devenue véritablement une seconde nature corporelle, si vous voulez, du corps, du regard, etc. Il me semble que... Alors, il y a une séduction de cette position puisqu'il dénonce la domination. Mais à mon avis, au plan des sciences sociales et de la sociologie, à mon avis, bon, là, il y a des choses qui ne sont pas du tout démontrées, c'est-à-dire que la notion d'inconscient social, à mon sens, niette, ça, c'est une chose qui n'existe pas. Il y a d'autres choses, il y a du non-conscient, mais l'inconscient social, non. La notion, l'idée que l'histoire d'une culture s'amoncelle invisiblement dans le corps des personnes, au plus profond d'entre elles, etc., à mon avis, ça, c'est une chose absolument pas démontrée, qui peut être tout à fait mythologique. Tout se rejoue à chaque pas. C'est toute une série de recherches qui montrent exactement l'inverse. Donc ça non plus. Et je dirais, et même dans la problématique même de la domination, si vous voulez, on ne peut pas supposer que... il y a un des deux sexes qui serait des méchants, qui voudraient le pouvoir et esclavagiser les autres. Je dirais, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que jamais, on ne peut pas faire de la dénonciation morale. Ce serait, trop facile. Le problème n'est pas là. Avec une perception de la problématique comme celle de Françoise Héritier, on a à la fois quelque chose, à mon avis, de plus difficile à penser, mais de beaucoup plus cohérent et de moins... de moins aléatoirement construit théoriquement, avec une espèce de distance effrayante entre la construction théorique et les faits tels qu'ils surgissent des données, si vous voulez. Alors donc, tel que moi je la reprends, et ça va être un peu ma conclusion, la domination, la valence différentielle des sexes donc, est liée à cette nécessité de construire une société en organisant la filiation, et c'est là où tout le travail où elle reprend Lévi-Strauss, et on peut se reporter à son article dans Critique, où elle dit tout le système, bon, l'interdiction de l'inceste, l'instauration d'une division du travail par sexe, et l'institution d'une union légitime. Et ces trois choses faisant pour Lévi-Strauss, faisant société, produisant la culture et la société, si vous voulez. Et quand même, il n'est jamais revenu en arrière, même s'il a fait toute une série de variations sur ces thèmes-là. Eh bien, si vous voulez, elle ajoute quelque chose, mais elle l'ajoute vraiment, d'une façon pas du tout artificielle. Elle dit, pour que ces trois choses-là fassent sens, et pour qu'il n'y ait pas les cas symétriques inverses, où il y ait des sociétés où les femmes donnent des hommes à marier, échangent des hommes, pour ne pas faire la guerre, les hommes dont on s'interdirait la relation sexuelle à l'intérieur d'une consanguinité définie de telle ou telle façon, si vous voulez. Et où les femmes elles-mêmes feraient, si vous voulez, comme le renversement des rôles n'est jamais, qui serait pensable, n'est jamais réalisé. Et donc, elle dit, pour que ça fasse système, il y avait un implicite qui a fonctionné par prétérition, y compris dans le travail de Lévi-Strauss lui-même, c'est que pour que ces trois choses-là fonctionnent, il faut qu'il y ait la valence différentielle des sexes qui, à chaque étape, fasse le lien et qui est le quatrième facteur qui manquait pour expliquer les trois autres. Et la façon dont elle explique ça, c'est très fort. Donc, si vous voulez, cette valence différentielle des sexes qui est instituée lorsque la société elle-même s'institue se fonde, si vous voulez, arrive à ce moment clé défini aussi par Lévi-Strauss, ce moment clé qui n'existe peut-être pas historiquement, mais qu'on est obligé de définir anthropologiquement. Alors, est-ce que ça veut dire que donc ce serait quelque chose d'éternel, etc., etc. Alors, à mon sens, voilà comment moi j'interprète, mais là, je ne suis pas sûre, Françoise Héritier, il faudrait dire si elle est d'accord, de même que il y a eu, à certaines époques historiques données, par exemple, l'institution de l'esclavage, c'est-à-dire de l'inégalité entre deux formes masculines et féminines de population, telles que, pendant des siècles, les uns qui étaient les victimes de guerre étaient mis en esclavage et les autres qui pouvaient inventer la République, leur version des droits de l'homme, etc., la tragédie, des choses culturelles admirables et tout ça. Tout naturellement, par prétérition, c'était leurs esclaves, point à la ligne, ça fonctionnait par prétérition. C'était donc un espèce d'invariant à condition, à société homologue, si vous voulez. Et eh bien, l'histoire montre que cet invariant, un peu comme au plan technique, on trouve la roue pour transporter quelque chose sans que ce soit trop, trop compliqué, mais toutes les sociétés n'ont pas inventé la roue. Cet invariant de l'esclavage, si vous voulez, n'est pas un universel, puisque l'histoire montre qu'il y a eu variation, qu'il y a eu changement, qu'il y a eu évolution. Alors, disons que l'invariant de la valence différentielle des sexes, donc c'est ma vision des choses, serait de cet ordre-là, si vous voulez, comme la roue qu'on rencontre dans la plupart des groupes connus, mais pas tous, et qui pourrait être remplacée par autre chose, techniquement. Mais enfin, on n'a pas trouvé. Si vous voulez, ça a été une solution technique très forte pour organiser cette espèce de contrôle collectif où hommes et femmes sont à égalité pour faire fonctionner le codage parfois très cruel du féminin. Ça a été donc l'espèce de solution trouvée pour faire société dans la plupart des groupes culturels connus et dont apparemment on ne se dépatouille pas comme ça au XXe siècle, malgré tous les changements extraordinaires survenus dans les sociétés. Mais cet invariant n'est pas un universel, dans la mesure où si les prémices sur lesquelles ils l'ont fondé, puisqu'à chaque fois on est dans une vision matérialiste, ou à partir de certaines prémices sur lesquelles on bute, découlent logiquement, mais non réversiblement. Et la logique de la construction culturelle, on ne peut pas rétrospectivement la revoir, parce qu'on n'a pas en main tous les événements qui ont contraint, si vous voulez, à certains choix. Et là, c'est l'histoire qui serait en jeu. Donc, qui ont entraîné cette position différentielle du masculin et du féminin, si les prémices, on y touche, il devrait y avoir cette logique. Et les prémices, c'est quoi? C'est cette idée de la transmission, de la nécessaire transmission de l'identité, qu'elle ne passe pas par les femmes seulement. Que la société doit inventer des codes pour que la transmission qui passe par les femmes passe par la société. C'est pas un hasard, et des belles enquêtes l'ont montré, alors pour le coup d'historienne, comme celle de Francine Muel-Dreyfus, que dans l'histoire du fascisme européen, ce sont dans les époques les plus fascistes qu'on accentue l'écart masculin-féminin et qu'on définit le féminin par la maternité. Bon, à la fois, on en fait une espèce de chose sacrée, et en même temps, on l'enferme là-dedans. Et ce sont des cultures où on sépare le masculin du féminin. Et donc, de même que certaines cultures séparent le masculin du féminin, étant des cultures, mettons, appelons-les ultranationalistes, on pourrait trouver un autre nom, moi je n'ai pas on peut trouver des dénominations, pour moi les dénominations sont des outils, et on peut en changer. Bon, certains types de cultures politiques tendent à enfermer le féminin dans le ventre féminin, c'est-à-dire dans la problématique de la procréation, quitte à diviniser ça, en faire une chose presque sacrée, une chose extatique dans la société, un destin sacré, etc., mais en même temps à enfermer la femme dedans, et donc à la cliver d'autant plus du politique, etc., etc. Mais on peut imaginer d'autres types de cultures qui accordent aux femmes, en tant que sujet, le libre choix de la contraception, le libre choix qu'on suppose qu'elles ne sont pas si folles que ça, qu'elles seront d'accord avec l'ensemble autour d'elles des gens qui lui sont affiliés, comme par exemple le géniteur de l'enfant, pour décider si oui, si non, et que l'ensemble de ces choix ne mettront pas en péril la société. Et donc, à partir du moment où ces prémices ou la problématique de la contraception et de la filiation sont posées différemment, il est évident que la question de l'accès aux politiques, l'accès à l'économique, l'accès à la culture technique, etc., change. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans l'évolution des sociétés démocratiques. Alors non pas... Alors Françoise Héritier dit que qu'en réalité, on n'y arrive pas, qu'il y a toujours la dissymétrie, que ça n'est pas fini, mais à aucun moment, elle dit que c'est impossible. Elle dit donc que c'est la... Comme l'avait bien dit, comme on l'avait bien pressenti au XIXe siècle, c'est bien l'inégalité la plus profonde, la plus compliquée, l'inégalité sociale la plus profonde, la plus compliquée, et celle où les femmes sont partie prenante de la mise en place de l'inégalité, de la façon la plus forte, c'est bien celle de la différence des sexes. Voilà, moi je m'arrête, je voudrais vous parler parce que je m'aperçois que j'ai parlé plus d'une heure.